Voilà Laurent, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Je suis très très heureux de partager ce moment avec vous.
Alors Laurent, on vous avait déjà accueilli sur Radio Maria France pour une émission précédente. Alors peut-être pour resituer un petit peu les choses, est-ce que vous pourriez vous représenter en quelques mots aux auditeurs de Radio Maria?
Oui, en quelques mots, ça va être difficile, mais on va essayer.
Oui.
Donc en fait, je suis marié, j'ai deux enfants, et depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je suis serviteur de Dieu. En tous les cas, j'essaye d'être plus fidèle à la parole de Dieu et puis dans un engagement de disciple missionnaire. Mais ça n'a pas été comme ça toute ma vie, puisque j'ai passé, on va dire, une grande partie de ma jeunesse, voire même un peu plus loin, j'étais à peu près 15 ans dans les drogues dures. Donc j'étais héroïnomane jusqu'à l'âge de 29 ans, en gros. Voilà. Et donc j'ai touché le fond. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui a bien fonctionné, qui s'appelle Arraché à l'enfer. Et je pense que je suis passé par toutes les cases, malheureusement, d'un toxicomane, avec la prison, la maladie, et puis bon, tous ces passages de ma vie qui ont été simplement horribles. Et grâce à Dieu, voilà, j'ai fait une expérience, j'ai fait une rencontre personnelle en prison, et aujourd'hui, voilà, j'ai pu me relever, j'ai pu apprendre à aimer, à être aimé, à donner envie d'aimer. En tous les cas, c'est mon but aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'aide de Dieu. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis vraiment engagé dans ma foi. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne, si vous voulez que je rentre plus dans les détails de mon histoire, vous allez me dire, je me laisse guider.
Oui, Laurent, parce que justement, c'est la question que j'allais vous poser. Peut-être revenir un petit peu sur cette histoire, cette conversion. Arraché à l'enfer, c'est quand même un titre qui veut tout dire hein, dans ce premier livre que vous avez écrit. Vous disiez cette rencontre personnelle avec le Christ en prison. Alors, comment ça s'est passé si on revient un peu en arrière, justement?
Alors moi, j'étais pas du tout croyant, hein. J'étais plus par tradition, on va dire, baptisé. Mon père était athée pratiquant, il ne croyait en rien, et surtout pas en Dieu. Ma mère croyait, mais elle pratiquait d'autres croyances. Mais je pense que ça a été un signe vraiment pour moi, la grâce de mon baptême, même si malheureusement, j'ai fréquenté aucun sacrement, je connaissais même pas une prière. Donc c'était pour moi Dieu, j'étais pas contre, mais j'avais l'impression que lui était très loin. Et en prison, donc quand je suis arrivé en prison, donc j'avais 24 ans, j'ai passé mes 25 ans en prison. Et en fait, c'était suite à une bagarre sur un trafic de drogue où j'ai été accusé d'homicide volontaire, donc un chef d'inculpation très lourd. Je venais de perdre un enfant, enfin ma femme, ma première compagne, on venait de lui annoncer qu'elle avait le sida, donc elle est enceinte de 4 mois. À l'époque, aucun traitement, on lui a fait une intervention thérapeutique de grossesse. Et donc j'ai basculé vraiment dans du grand n'importe quoi, voilà, et c'était vraiment presque de la folie, je dirais, dans ma tête, et je me suis retrouvé donc incarcéré. Quand je suis arrivé en prison, je vous épargne les détails du manque physique et du lieu, quand même, j'étais à Fresnes en maison d'arrêt. Et quelques semaines après l'incarcération, on m'a appris que j'avais le sida. Donc là, je pensais que j'allais mourir en prison. Je ne sais pas comment expliquer, mais si je devais mourir, autant accélérer le processus. Et j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Et donc, je me suis fabriqué une lame. Je me suis fabriqué quelque chose de tranchant. Et j'ai attendu la nuit que les détenus s'endorment. J'avais tout préparé. Enfin, j'étais prêt. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est horrible de dire ça. Mais en tous les cas, je supportais plus cette vie. Ça, c'était pour moi. Je n'arrivais plus à supporter cette vie, j'avais l'impression d'être devenu un monstre. J'étais vraiment mal au plus mal voilà, j'étais une forme de dépression, je sais pas comment on peut appeler ça. Et la seule crainte que j'avais, alors peut-être grâce à mon baptême, j'en sais rien, mais en tous les cas, la seule crainte que j'avais, c'était de finir en enfer. Et ça, pour moi, c'était pas bon du tout, mais quand je dis pas bon du tout, ça me faisait encore plus peur que mourir. Et donc, on parle du bon Dieu, on dit qu'il est miséricordieux, ça j'avais déjà entendu parler du bon Dieu, hein, même si je ne le connaissais pas. Et j'ai fait comme une forme de prière ou un cri, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'ai dit, si Dieu, voilà, tu es quelque part, est-ce que tu peux m'accueillir dans ton paradis? Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Ça faisait très, très, très longtemps que je ne pleurais plus. J'étais vraiment... voilà, mon cœur, c'était une forteresse. C'était un double blindage. Et plus je pleurais, en fait, plus je ressentais comme une paix intérieure. Je n'avais jamais expérimenté cette paix profonde. Et je n'ai rien vu dans la cellule, avec mes yeux, en tous les cas. Enfin, je ne voyais rien autour de moi, mais c'est à l'intérieur que ça s'est passé. Et à l'intérieur de mon être, de mon cœur, je ne sais pas où ça s'est passé, j'ai vu une image, et cette image représentait un visage marqué, très noir, très, très sombre, et pour moi, ce visage, c'était le visage du Christ. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé, quelques années après, j'ai revu cette image sur une photo, enfin une icône, et on m'a expliqué que c'était le sphère de Turin. Et dans cette cellule, j'ai vraiment eu cette révélation que Dieu était tout amour. Et du coup, à partir de là, j'ai lâché la lame et j'ai commencé à croire que Dieu pouvait intervenir dans ma vie. Et c'est comme ça qu'il y a eu un début de chemin de conversion, on va dire.
Et vous avez découvert ce que vous disiez, c'est que vous avez redécouvert cette icône plus tard et vous l'avez reconnue.
Ah oui, non mais c'était un truc de fou. Alors, ce qui s'est passé dans cette prison suite à ça, j'ai lâché donc la lame et j'ai commencé à me fabriquer une croix. C'est incroyable parce que ce visage, j'avais cette conviction intérieure que c'était le Christ, qu'il était venu, qu'il m'avait sauvé de la mort et que quelque part, je pouvais lui faire confiance. À partir du moment où on peut faire confiance, on peut commencer à sortir de nos peurs, c'est-à-dire à partir du moment où on croit. Et quand on croit en Dieu, en fait, on peut avoir confiance dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis fabriqué une croix, et tous les soirs, je ne connaissais pas la prière, hein, mais tous les soirs, j'ai demandé à Dieu qui me protège. Dans ce milieu, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais peur qu'on me fasse du mal. Et Dieu m'a protégé. Mais vraiment, quand je dis « il m'a protégé », il était là, Alors, je sentais sa présence, non pas comme ce qui s'était passé la première fois par rapport à cette rencontre personnelle, mais je sentais qu'il était là et qui me protégeait. D'ailleurs, la justice des hommes a reconnu une légitime défense. Et pour moi, j'ai eu un non-lieu, hein, j'ai même pas été jugé, et pour moi, ça a été une intervention divine. Et donc... Je suis sorti de prison, les choses n'ont pas été réglées, hein, comme ça, d'une baguette magique, mais Dieu était au fond de mon cœur. Et si vous me permettez, je le dis aux auditeurs, Dieu était dans mon cœur, mais je ne le connaissais pas. Mon cœur était prêt, mais je n'ai aucune rencontre avec des personnes qui auraient pu me parler de Jésus. Et je crois que c'est très très important ce que je suis en train de dire, en tous les cas, par rapport à l'évangélisation. Moi aujourd'hui je suis témoin, et je suis témoin de la gloire de Dieu, je suis témoin des merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Et je pense que si un grand nombre d'auditeurs, un grand nombre de personnes qui vont à la messe, qui prient, donc eux-mêmes sont témoins, s'ils n'interviennent pas dans la vie de quelqu'un, en fait, ils peuvent, malheureusement... faire perdre du temps aux autres. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, moi, mon cœur était prêt, je rentrais dans les églises, je demandais à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi c'est toujours pareil ? Pourquoi je suis encore dans la misère ? Pourquoi je suis encore dans mes peurs ? Pourquoi je suis encore dans la maladie ? Alors, je m'adressais à celui qu'on a mis sur la croix, à Jésus, et je le voyais sur cette croix, et j'avais l'impression que lui pouvait comprendre mes souffrances. D'ailleurs, il m'a sauvé de mes propres souffrances. Mais pourquoi il n'agissait pas ? Et je le dis parce que je pense que à partir du moment où on est baptisé, on a un devoir, une responsabilité de pouvoir témoigner de notre foi. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas aller annoncer Jésus dans la rue avec un haut-parleur, mais au moins avoir vraiment une bienveillance chez la personne qui rentre dans une église, avoir cette compassion avec un frère qui pleure, avoir une présence, je crois que le chrétien est il a la lumière du Christ au-dedans de lui, et donc il est important de venir éclairer autour de lui par cette présence des personnes qui sont en recherche. Et donc moi, il a fallu que je passe par des cases de maladie, d'abord la psychiatrie où j'étais enfermé pendant quelques mois où j'ai pété un câble, enfin je suis devenu fou quoi quelque part, et puis le sida qui s'est déclaré. Et donc c'est à l'hôpital, dans un hôpital où on s'occupait des malades du sida, qu'un homme a osé, je dis bien, il a osé me parler de Jésus. Et bien cet homme-là, je crois sincèrement que c'est la première personne qui m'a donné envie d'aimer la vie, qui m'a fait partager quelque chose par rapport à sa propre foi. Et comme mon cœur était prêt, j'ai eu totale confiance en lui. Et cet homme-là était catholique. C'est lui qui m'a conduit dans une communauté catholique. J'ai été accueilli aux Béatitudes. Donc les Béatitudes, à l'époque, dans le Tarn, à Cortes-sur-Ciel, ça s'invente pas. Hein. Ils accueillaient des malades fin de vie en soins palliatifs, cancer phase terminale, sida phase terminale. Je suis arrivé là-bas, je n'avais pas 30 ans, j'avais 29 ans pour y mourir. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis bien en vie, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, et notre Seigneur est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Et donc je proclame aujourd'hui cet esprit de vie, parce qu'il a comblé mon cœur, et parce que voilà, grâce à des hommes et des femmes consacrés à Dieu, et ben le Seigneur m'a permis de me relever, de réparer tout ce qui était brisé en moi. Et puis le reste, c'est les événements de la vie qui ont fait que, pendant 3 ans, les médecins ne comprenaient pas pourquoi je tombais pas malade du sida. Enfin, pourquoi je mourrais pas du sida, hein, j'étais malade. Mais... Et puis on a trouvé des traitements. Et puis je suis rentré pleinement dans ma destinée. Je crois que chacun d'entre nous avons une mission particulière, une destinée. Hein, je crois que la foi, c'est déjà se projeter dans un avenir où Dieu a mis sa faveur. Et pour ça, nous avons les compagnons de route, et particulièrement Marie. Je sais combien Radio Maria a une sensibilité particulière avec la Vierge Marie. Et ben, elle est notre mère, elle est notre amie, elle est notre amie fidèle, elle est notre sœur encore, qui nous ouvre les portes vers ce royaume. Et voilà comment que ça s'est passé, en gros, quoi. Bon, je parle beaucoup, excusez-moi.
Mais alors Laurent, j'ai envie de dire cette mission, parce qu'il y avait une mission, bien sûr, et elle était toute trouvée en quelque sorte, parce que les problèmes d'addiction, je crois que vous faites beaucoup d'interventions, notamment auprès des jeunes, hein, parce que c'est un problème maintenant, aujourd'hui, qui n'est évidemment pas du tout réglé. Il y a des addictions partout aujourd'hui.
C'est terrible. Je le dis, hein, je l'ai écrit dans le livre « Troubadour d'espérance », mais je le dis aux jeunes. En fait, on a laissé, je crois que c'est Jean-Paul II qui disait ça, on a laissé une société, gentiment, tranquillement, à dire et à crier d'une certaine manière, « le bon Dieu, on n'en a plus besoin ». Et je crois qu'une société où il n'y a plus la place de Dieu dans cette société, c'est une culture de mort qui prend la place. Et aujourd'hui, je crois que nous avons une génération, enfin ça fait quelques années déjà, une génération sacrifiée, c'est-à-dire avec un poids de mort. Quand je parle de poids de mort, c'est toutes les lois qui nous sortent, c'est toutes ces drogues, on est quand même un des pays les plus grands consommateurs de résine de cannabis. C'est tous ces jeunes qui malheureusement laissent leur pensée de mort les envahir, avec un pourcentage de jeunes qui se suicident, en tous les cas qui font des tentatives de suicide. J'écris beaucoup de témoignages de cet ordre-là dans mon livre Troubadour d'espérance. Je me fais le haut-parleur d'une certaine manière de cette souffrance des jeunes dans les addictions, la pornographie, les écrans, les réseaux, etc., etc. En fait, c'est un enfermement. Et si on regarde bien ce mot, l'enfermement, et je crois qu'on est enfermé, on est incapable de prendre possession de notre vie, c'est-à-dire donner un sens à notre vie. Pour moi, c'est ça. Rentrer pleinement dans cette espérance, c'est de pouvoir se projeter déjà avec un regard, une conviction, une confiance totale que Dieu ouvre les portes pour embellir notre vie, pour nous permettre justement d'être libres L'Esprit Saint est un esprit qui nous rend libres. D'ailleurs, là où la vérité, là est l'esprit de Dieu qui veut nous rendre libres. Et je crois que cette vérité, Dieu nous le dit dans sa parole, hein, il est le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que quand on choisit Jésus dans notre vie, il nous rend libres, libres de tout attachement. Vous savez, j'aime bien reprendre cette citation de Don Bosco, de Saint Don Bosco, qui disait « La jeunesse, c'est la partie la plus délicate et la plus précieuse de notre société. » Mais qu'est-ce que nous avons fait de notre jeunesse ? Eh bien, pour moi, cette mission, elle se veut d'abord pour ces jeunes. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je vais dans les écoles. D'ailleurs, Dieu a beaucoup d'humour parce que j'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années. Et il y a un message de foi, un message authentique, un message qui leur permet de prendre conscience que nos jeunes, ce qu'ils désirent le plus, c'est pas d'être conditionné dans un plaisir à l'excès qui les rend malheureusement à vivre comme des esclaves. Nos jeunes aujourd'hui, ils ont envie d'avoir des modèles de héros. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons ce devoir de leur proposer des modèles de héros. Et pour moi, les saints qui nous ont précédés sont des modèles de héros. Jésus est un modèle de héros. Marie, au pied de la croix, est un modèle de héros. Pour moi, voilà, c'est ça. Et quand ils écoutent un message comme ça, ils peuvent se projeter, ils peuvent, encore une fois, devenir eux-mêmes leurs propres héros de leur histoire. Hein, quand le pape François, pendant le confinement, disait « Aujourd'hui, les héros que nous avons, ce sont ceux qui auprès des malades, les soignants, on les a applaudis pendant le confinement. » Et ben voilà, devenons ces héros, devenons d'une manière authentique, avec cet esprit de vie qui demeure en nous. Et puis, n'hésitons pas à parler de cette bonne nouvelle, de l'amour que Dieu a répandu par son Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Et je crois que c'est ça, moi, par rapport à tout ce que je fais contre le combat des addictions, c'est d'abord voilà, leur permettre de se projeter, de trouver une motivation supérieure. Alors bien sûr, on pourrait en parler des heures si vous voulez, moi je peux parler de toutes ces addictions, mais voilà, le moteur de mon combat, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils trouvent en eux une motivation supérieure. C'est-à-dire que plus ils seront passionnés de leur vie, plus il y aura quelque chose de cet ordre-là, la différence entre la passion et l'addiction, la passion les élève, vraiment, et l'addiction les enferme, les coûte de même, les fait rentrer dans un mensonge, un déni, et du coup, malheureusement, ils passent à côté de leur vie, si je peux m'exprimer ainsi.
Alors Laurent, justement, ce livre « Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission », de quoi vous parlez-vous exactement dans ce livre ?
C'est la continuité d'Arraché à l'enfer, c'est-à-dire ces 15 ans de mission. 15 ans où j'ai décidé, avec un discernement, d'être ce disciple missionnaire, un missionnaire des cœurs. Et donc, je donne une photographie de cette génération, une photographie de cette jeunesse que je rencontre, de l'Église universelle aussi, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de lieux d'évangélisation. D'ailleurs, la plupart de vos auditeurs me connaissent certainement d'un groupe de prière ou d'une manifestation, un pèlerinage qu'on a pu faire ensemble. Et donc, il y a vraiment... cette photographie de ces jeunes qui souffrent et en même temps cette photographie aussi, cette vision de ces jeunes qui rentrent pleinement dans leur destinée. Donc il y a beaucoup de messages, qui sont destinés à des futurs missionnaires ou des missionnaires, hein, c'est-à-dire beaucoup de citations, beaucoup de la parole de Dieu, c'est un coaching spirituel avec beaucoup de petits témoignages. Et des révélations que Dieu m'a données aussi sur l'évangélisation, puisque ça fait 15 ans que je tourne. Et puis aussi, toute cette culture de mort que je parlais tout à l'heure, avec un gros chapitre. Qu'est-ce qu'une addiction ? Et comment se sortir de l'addiction ?
Les addictions, c'est quoi ? Mais surtout, qu'est-ce que vous proposez déjà comme une première approche pour en sortir ? Parce que c'est le but quand même.
Alors, déjà, je crois que quand on connaît qu'est-ce qu'une addiction, on peut mieux comprendre. C'est une maladie de dépendance, que ce soit un adulte ou un jeune qui est prisonnier, hein, en fait, il ne peut plus contrôler cette recherche de plaisir qui devient une véritable souffrance pour lui, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, qu'il soit dans le déni ou pas, mais pour tous les codépendants, c'est-à-dire c'est une véritable souffrance dans toute la famille. Donc quand on connaît plus ou moins déjà un petit peu le fonctionnement, on va essayer de casser les mécanismes de la personne qui est prise dans ce piège. On va essayer, bien sûr, de l'aider. Donc moi, je crois beaucoup au spirituel, je crois beaucoup que Jésus fait des miracles, bien sûr, au travers de l'intercession de Marie, de nos prières, mais nous avons aussi besoin d'être accompagnés, qu'il y ait un cadre, des personnes qui peuvent d'une certaine manière aussi nous aider sur le plan psychologique. Et je crois qu'ensemble, moi c'est mon travail, essayer faire sortir cette personne de cette dépendance en lui donnant les moyens de s'accrocher à sa propre vie, de s'accrocher, de croire, tout à l'heure je disais, hein, c'est croire qui nous permet d'avoir confiance, bah, de croire en Dieu, de croire en lui, de croire en l'amour, de croire en la vie, de croire en des choses comme ça. Alors on va l'accompagner. Alors concrètement, au niveau spirituel, moi j'ai dans le livre, j'ai consacré tout un passage où il y a des prières. Alors il y a un chapelet de libération, hein, qui nous permet justement à haute voix de citer l'addiction, que ça soit pour la personne de notre entourage ou la personne elle-même qui le dit. Et puis il y a une prière, vous savez, c'est comme quand on va voir le médecin, il nous laisse une ordonnance. Mon ordonnance à moi, c'est une prière de 40 jours. Une prière où on a oublié, dans l'Église catholique, on a oublié les prières, hein, qui sont des prières tellement puissantes, des prières de délivrance, où justement il y a une puissance dans la prière. Et moi, j'ai repris un petit peu les prières de certains saints qui pratiquaient des délivrances. Et je la donne dans ce livre aussi, avec quelques autres aides pour qu'on comprenne bien. Il y a le spirituel, mais aussi faut voilà, c'est un ensemble. Et je pense que moi, je l'ai vu dans les sessions que je fais pour vaincre les addictions ou dans les accompagnements que je fais des jeunes, j'ai vu beaucoup de libération, de guérison totale, que ça soit l'alcool, la drogue, hein, et puis toutes les pratiques de mal-être comme la scarification, la boulimie, l'anorexie, et puis les tentatives de suicide, et puis la pornographie, etc., etc. Hein, même tout ce qui a été sorcellerie. Enfin, il y a des personnes qui sont prisonniers dans des sectes ou sur des dépendances, des personnes qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique. Voilà, moi je donne les armes nécessaires pour pouvoir briser ce lien dans lequel on est prisonnier, je dirais. Voilà, donc c'est vraiment un manuel, je dirais, au-delà d'un livre qu'on lit comme ça, c'est vraiment un manuel. D'abord pour les futurs missionnaires ou les missionnaires, et puis aussi pour tous les éducateurs, hein, ou les parents, bien sûr, hein, alors qu'ils soient en difficulté ou pas en difficulté. Quand on a des enfants, à un moment donné, on va croiser sur le chemin de l'adolescence, sur le chemin du jeune, des difficultés. Bah, comment pouvoir aider le jeune à sortir de certaines difficultés dans lesquelles il se trouve. Voilà, donc c'est vraiment un manuel, ce troubadour d'espérance, ce livre Troubadour d'espérance. Et vraiment, je le pense sincèrement, ça va faire du bien aux personnes qui ont autour d'eux, qui connaissent des difficultés. Ça va leur faire du bien tout simplement parce qu'ils vont avoir des clés. Et quand on a des clés, on peut ouvrir des portes. Et donc, il y aura des portes qui vont s'ouvrir et des mécanismes dans lesquels ils pourront, comprendre les mécanismes des fonctionnements d'enfermement. Et quand on comprend un mécanisme, on peut aider la personne à s'en sortir.
Je crois que voilà, vous avez donné envie de lire ce livre, parce que je crois que vraiment, de près ou de loin, on est tous touchés d'une certaine manière par une personne qui a ses problèmes d'addiction. Troubadour d'espérance, c'est de l'addiction à la mission, le sous-titre. Et Laurent Guay, c'est aux éditions des Béatitudes. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis, vous avez tout à fait raison, hein, le premier livre Arraché à l'enfer s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires. Donc ça veut dire que, quelque part, beaucoup de personnes sont concernées.
Il y a un besoin, eh oui.
Effectivement.
Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup, Laurent, pour ce partage et pour ce nouveau livre. Et voilà, on espère vous avoir encore à nouveau sur Radio Maria France. Et en tout cas, très très belle mission à vous, parce que c'est une mission très importante aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et puis vraiment, je suis très très heureux pour moi. C'est vraiment des amis, les auditeurs de Radio Maria. Et d'ailleurs, je me permets de vous bénir, de bénir vos familles, de bénir voilà, tout ce que vous entreprenez aussi. Vraiment, c'est un cadeau de pouvoir partager sur vos ondes. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour moi.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci.
Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.